sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 22 mars 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord les titres. Au Nigeria, Peter Obi, le candidat arrivé troisième à la présidentielle, saisit la justice. Le parti au pouvoir remporte la majorité des postes de gouverneur. L'Éthiopie et l'Érythrée rejettent les accusations américaines sur des crimes de guerre au Tigré. En Ouganda, le Parlement adopte une loi controversée anti-homosexualité. En Tanzanie, une mystérieuse maladie qui a tué 5 personnes a été identifiée comme provenant du virus de Marburg. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping, qui a maintenant quitté Moscou, célèbrent ce qu'ils ont appelé leur relation spéciale face aux Occidentaux. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Au Nigeria, le parti au pouvoir a remporté la majorité des postes de gouverneur, notamment à Lagos, après dépouillement de plus des 2/3 des votes de ce scrutin marqué par des violences et irrégularités jugées inquiétantes par les États-Unis. Le point avec Eric Manirakidza.
Les électeurs étaient appelés à voter samedi pour élire plus de 900 représentants des assemblées des États ainsi que les gouverneurs de 28 des 36 États. D'après les résultats dans 23 États, communiqués au compte-gouttes par la commission électorale, le parti présidentiel APC, Congrès des progressistes, a remporté les postes de gouverneur dans 15 États, tandis que la principale formation d'opposition, Parti démocratique populaire, PDP, s'est imposée dans 7 États et le NNPP, un petit parti, dans un État. Ce scrutin s'est déroulé 3 semaines après la présidentielle remportée par Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, et jugé frauduleuse par les principaux partis d'opposition. Les gouverneurs sont très puissants au Nigeria. Certains d'entre eux disposent pour leur état de budgets plus gros que ceux de plusieurs pays africains. Observateur du scrutin, le Centre pour la démocratie et le développement CDD, a noté dans certaines zones du pays une tendance au découragement à la suite de la présidentielle. Les États-Unis ont toutefois fait part de leur profonde préoccupation quant aux actes inquiétants d'intimidation violente d'électeurs à Lagos, Kano et dans d'autres États où certains ont été empêchés de voter, selon un communiqué de l'ambassade américaine au Nigeria publié mardi. Le président sortant Muhammadu Buhari se retire en mai après 2 mandats marqués par l'explosion de la pauvreté et de l'insécurité dans le pays.
Ajoutons que le candidat arrivé troisième à la présidentielle nigériane, Peter Obi, a officiellement introduit un recours juridique contre la victoire de Bola Tinubu, représentant du parti au pouvoir, a annoncé mardi son parti. Ce recours, daté de lundi, ne représente probablement qu'un volet d'une longue bataille juridique sur les résultats de ce scrutin du 25 février. L'accord de paix ayant mis fin à 2 ans de conflit brutal dans la région éthiopienne du Tigré ne doit pas empêcher d'enquêter sur les crimes de guerre et contre l'humanité, a affirmé mardi la commission d'enquête de l'ONU. De leur côté, les autorités éthiopiennes et érythréennes ont rejeté des accusations américaines, les qualifiant de sélectives et diffamatoires. Abdourahmane Dia.
Pour le président de ce groupe d'enquêteurs qui s'exprimait devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, la signature le 2 novembre 2022 à Pretoria de l'accord de paix est certes une étape importante. Mais Mohamed Chande Othman s'empresse d'ajouter que la nécessité d'enquêter sur les allégations de violation reste plus importante que jamais pour instaurer une paix durable dans le plein respect des droits humains. En septembre dernier, la commission avait affirmé avoir des motifs raisonnables de croire que toutes les parties au conflit ont commis des crimes de guerre et des violations des droits humains depuis que les combats ont éclaté en novembre 2020. Lundi soir, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, tout juste rentré d'une visite en Éthiopie, a accusé tous les belligérants, forces pro-gouvernementales comme rebelles, d'avoir commis des crimes de guerre. Accusation rejetée par les autorités éthiopiennes et érythréennes qui parlent de déclarations sélectives et diffamatoires.
En Ouganda, le Parlement a voté mardi une loi prévoyant de lourdes peines pour les personnes se livrant à des actes homosexuels ou se revendiquant comme LGBT+, lors d'une séance agitée. Les députés ont considérablement amendé le texte initial qui prévoyait des peines allant jusqu'à 10 ans de prison dans un pays où l'homosexualité est déjà illégale et où les théories conspirationnistes sur le sujet foisonnent sur les réseaux sociaux. D'obscures forces internationales sont accusées de faire la promotion de l'homosexualité en Ouganda. En Tanzanie, une mystérieuse maladie qui a tué 5 personnes a été identifiée comme provenant du virus de Marburg, un cousin d'Ebola qui provoque lui aussi une fièvre hémorragique. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère de la Santé en appelant la population au calme car, dit-il, le gouvernement a réussi à contenir la propagation de la maladie. Le cyclone meurtrier Freddy a laissé dans son sillage plus d'un demi-million de personnes sans foyer au Malawi selon l'ONU, qui a alerté mardi sur une explosion des besoins humanitaires dans ce pays d'Afrique australe. Freddy, qui s'est dissipé la semaine dernière, après avoir provoqué de fortes inondations et d'impressionnants glissements de terrain, a tué au moins 499 personnes dans le sud du Malawi, épicentre de la catastrophe, et plus de 650 au total en Afrique australe depuis fin février, selon des données collectées par les agences onusiennes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une vidéo éprouvante montrant la mort d'un homme noir écrasé sous une dizaine de policiers et de soignants lors de son admission dans un hôpital psychiatrique a été diffusée hier mardi aux États-Unis, relançant le débat sur les violences policières. John Lennon.
Une vidéo du drame, filmée par une caméra de surveillance et publiée mardi par plusieurs médias, montre l'arrivée d'Irvo Otieno, 28 ans, à l'hôpital après 3 jours dans une cellule. Menotté, les chevilles entravées, il est torse nu et sans chaussures et avance plié en deux, tiré par des agents. Il est d'abord assis par terre, le dos contre un fauteuil. Quelques minutes plus tard, ce jeune homme au physique imposant est plaqué au sol sous plusieurs agents, 3 au début, jusqu'à 10 à la fin de la scène. Il est torturé et meurt au bout de 11 minutes. La vidéo avait été montrée au préalable à la famille d'Irvo Otieno, qui a souhaité sa diffusion. L'avocat de la famille, Ben Crump, avait fait le parallèle avec le meurtre de George Floyd, un quadragénaire noir mort en 2020, étouffé par un policier blanc de Minneapolis. La vidéo de son calvaire, qui avait fait le tour du monde, avait suscité une immense mobilisation contre le racisme et les violences policières. 7 policiers du comté de Henrico et 3 agents du Central State Hospital de Pittsburgh, majoritairement afro-américains, ont été inculpés pour meurtre la semaine dernière.
Les présidents russes et chinois ont loué hier soir l'entrée dans une nouvelle ère de leurs relations spéciales face aux Occidentaux. Vladimir Poutine a appuyé prudemment le plan de son homologue Xi Jinping pour régler le conflit en Ukraine, tout en accusant Kiev de le rejeter. Jacques Aristide.
Le maître du Kremlin et le dirigeant chinois ont trinqué à la prospérité de leur peuple lors d'un dîner d'État couronnant la visite à Moscou de Xi Jinping. Objectif de leur sommet, démontrer la solidité des relations entre la Russie et la Chine. Dans une déclaration commune aux accents de guerre froide sur l'approfondissement de leur partenariat stratégique, les deux dirigeants ont vivement attaqué l'Occident, accusant les États-Unis de saper la sécurité internationale pour conserver leur avantage militaire. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont également exprimé leurs préoccupations face à la présence croissante de l'OTAN en Asie, ajoutant qu'une guerre nucléaire ne devait jamais avoir lieu. Ils sont parvenus à un accord sur le gigantesque projet de gazoduc Force de Sibérie 2, symbole de la volonté de Moscou de réorienter son économie vers l'Asie face aux sanctions internationales. Le chef de l'État chinois a déclaré que Pékin était pour la paix et le dialogue en Ukraine. À Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit avoir invité la Chine à faire partie du règlement du conflit et attendre sa réponse, ajoutant recevoir des signaux mais rien de concret. Pour Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, le monde ne doit pas être dupe face à toute décision tactique de la Russie soutenue par la Chine ou tout autre pays de geler le conflit en Ukraine selon ses propres conditions.
Merci Jacques. Au moins 12 personnes sont décédées dans le fort tremblement de terre de magnitude 6.5, principalement ressenti mardi soir en Afghanistan et au Pakistan. Mais la région semble avoir évité des pertes humaines massives auxquelles une secousse d'une telle ampleur est habituellement associée. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En République démocratique du Congo, la Banque mondiale va financer un nouveau projet de construction d'un réseau de fibres optiques le long de la route nationale numéro 2 entre Mbujimayi et Bunia. Selon Ecofin, l'annonce a été faite à l'occasion de l'inauguration du réseau de fibres optiques Kinshasa-Mwanda. En Côte d'Ivoire, le nouveau patron de la Confédération des entreprises du pays, Ahmed Cissé, a rencontré Adama Bik Togo, le chef de l'Assemblée nationale. Monsieur Cissé a demandé que les marchés et projets soient attribués en priorité aux entreprises locales. Le moyen le plus sûr d'appuyer la transformation structurelle de notre économie et de rendre la croissance plus inclusive, a déclaré le président du patronat ivoirien. Ici aux États-Unis, les marchés boursiers ont confirmé hier leur rebond amorcé la veille, la crise de confiance dans le système financier semblant s'apaiser grâce aux différentes mesures prises pour circonscrire les risques de contagion. Ce rebond des titres bancaires intervient deux jours après le sauvetage in extremis de Crédit Suisse, racheté pour une bouchée de pain par sa concurrente et compatriote UBS.
Merci Claire. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Basketball Africa League, le champion en titre tunisien out.
Oui, c'est le coup de tonnerre à l'issue des matchs de la conférence Sahara qui a désigné hier mardi ses quatre qualifiés pour les playoffs prévus pour mai prochain à Kigali au Rwanda. L'US Monastir de la Tunisie est tombé 60-76 devant l'AS Douane du Sénégal qui arrache sa troisième victoire dans cette conférence Sahara et se qualifie en même temps pour les playoffs. Avant ce match, le stade malien de Bamako a assuré sa qualification pour les playoffs en dominant Abidjan Basketball Club 71-90. Les Ivoiriens restent tout de même qualifiés pour les playoffs tout comme REG du Rwanda. Sont éliminés l'US Monastir de la Tunisie et les Nigériens de Kwara Falcons. Les quatre qualifiés de la conférence Sahara connaîtront leurs adversaires des playoffs à l'issue des matchs de la conférence Nil prévu du 26 avril au 6 mai prochain au Caire en Égypte.
Début ce mercredi des matchs de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023.
Avec 0 point obtenu en 2 sorties dans le groupe L, le Bénin reçoit le Rwanda ce soir avant le match retour le 27 mars à Kigali pour le compte de la 4e journée. Récemment nommé à la tête de l'équipe nationale du Bénin, le technicien franco-allemand Gernot Rohr dit n'avoir pas le temps à perdre.
On va évidemment mettre quelque chose en place. Nous avons envie d'avoir une équipe conquérante. On est dos au mur, il y a 0 point, on n'a pas le choix. il faut y aller. Donc c'est une organisation qui va être simple. Il faut attaquer, marquer des buts et gagner ce match.
Guenotro, sélectionneur du Bénin, coup d'envoi de ce match, 15h, temps universel. À suivre aussi ce soir, Sierra Leone, Sao Tomé et Principe, à 18h, TU.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Niger, devenu partenaire privilégié de la France et des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, a obtenu lundi la libération du journaliste français Olivier Dubois, otage pendant 2 ans de djihadistes au Mali, et celle d'un autre otage américain, Jeffrey Woodkin, humanitaire chrétien, qui avait été enlevé le 14 octobre 2016 au Niger. Niamey n'a pour l'heure fait aucun commentaire sur son rôle. Pour analyse, Eric Manirakidza a joint à Nouakchott Ahmedou Oud Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU.
Le rôle que vient de jouer le Niger, en particulier toute l'équipe de Mohamed Bazoum, le président, est une démonstration de leur expertise, leur discrétion, ce qui sont, à mon avis, des éléments essentiels pour faire face à la présence du terrorisme. Et la libération de ces otages, j'en suis content pour leurs parents, pour les leurs, mais je suis content pour l'image que ça donne du Niger et de la région. Et j'espère que les autres otages encore pris, comme l'Australien qui est en prison depuis 2016 et les 3 Italiens et Allemands depuis 2022, seront bientôt libérés.
Le fait d'obtenir la libération de ces 2 otages, est-ce que ça donne au Niger une autre dimension dans la lutte contre le terrorisme?
Le terrorisme, c'est un problème très complexe. Le terrorisme d'Israël, le terrorisme avant lui en Afghanistan, c'est un problème complexe en ce sens qu'il y a effectivement une idéologie et des violences, mais il y a aussi des activités économiques, commerciales, qu'on ne doit pas ignorer. Quand on parle de terrorisme, il y a souvent des trafics de commerce, de migrants et des trafics divers qui, en fait, déstabilisent les pays. Et récemment, dans le centre 4S, nous avons prouvé que ça retribalise nos pays. La présence du terrorisme, la présence structurelle du terrorisme encourage les services de douane, de police et même parfois militaires à revenir à la tribu à cause de l'influence des trafiquants. Et nous devons tout faire dans le Sahel et au-delà pour mettre fin à cette présence structurelle du terrorisme. Et nous ne pouvons pas le faire seuls, à mon avis. Ça ne veut pas dire des bases étrangères, mais ça veut dire des alliances d'abord entre pays, comme le G5 Sahel, que j'espère voir revivre et que le Mali reviendra avec la Mauritanie, le Niger, le Burkina et le Tchad. Ce sont des organisations de ce genre qui peuvent mettre leurs fonds politiques, sociaux, militaires et financiers ensemble pour faire face à ce fléau qui est complexe.
Parlons de la place du Niger maintenant.
Oui, le Niger est central. Le Niger se trouve au cœur du G5 Sahel. Le Niger est voisin du Nigeria. Et vous savez que le Nigeria connaît dans le nord une violence devenue structurelle avec Boko Haram et qui s'étend vers les pays voisins. Et c'est un mouvement terroriste qui a des dimensions, non seulement de trafic, de commerce illicite, mais aussi qu'il y a une dimension humaine, pour ne pas dire ethnique. Et ce sont ces mouvements qui constituent un danger, et j'espère que le Niger, mais aussi le Mali, le Burkina, le Tchad et la Mauritanie, où on vient d'avoir un attentat d'ailleurs récemment, que ces pays remettront leurs ressources humaines, militaires et financières ensemble pour faire face à ce terrorisme qui descend depuis plusieurs années vers le sud, c'est-à-dire vers la côte atlantique et le golfe de Guinée.
Ahmedou Oud Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les États-Unis et leur stratégie sécuritaire dans le Sahel et en Afrique. Quelques 1300 militaires de 29 pays ont pris part ce mois au Ghana et en Côte d'Ivoire aux exercices militaires Flintlock. De son côté, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, qui était en visite au Niger la semaine dernière, a estimé que Washington est un partenaire plus fiable dans la lutte contre la pauvreté et la violence djihadiste. Quel type de coopération pour venir à bout du terrorisme sur le continent? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Burkina Faso, la crise sécuritaire qui fait rage depuis des années a un impact désastreux sur l'éducation. Avec plus d'un million d'enfants privés d'école en raison de la fermeture de plus de 6000 établissements, la situation est critique. Alors que la conférence de haut niveau sur l'éducation dans les situations d'urgence s'ouvre ce mercredi à Bruxelles, les organisations locales et internationales se mobilisent pour une meilleure prise en compte de l'accès à l'éducation pour les enfants touchés par la violence et les déplacements. Au micro d'Arzuma Compaoré, la représentante de Plan International au Burkina Faso, Annika Kostik, nous livre son point de vue sur cette situation dramatique.
La fermeture des écoles continue d'augmenter au Burkina Faso en raison de l'insécurité. Le pays compte désormais près de la moitié, 45% de toutes les écoles qui sont fermées en Afrique de l'Ouest et de Centre. C'est une triste première place à atteindre dans une région où la violence et le déplacement forcé ont entraîné plus de fermetures d'écoles que jamais auparavant. Donc nous avons plus de 13 000 écoles au total qui sont fermées. Donc une sur quatre écoles au Burkina Faso est actuellement hors service, touchant plus d'un million d'enfants, filles et garçons. Seulement environ un quart d'entre eux ont trouvé leur chemin vers de nouvelles salles de classe jusqu'à présent.
Alors, quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place pour essayer d'apporter des solutions?
Concernant les actions concrètes qu'on met en place, il y a beaucoup de soutien que les acteurs humanitaires apportent au niveau de l'espace temporaire d'enseignement en lien avec les communautés, les populations et les autorités qui sont sur place pour vraiment pallier à cette manque des infrastructures scolaires. Nous sommes aussi, ceux qui sont spécialisés, en train d'appuyer les enseignants et les enseignantes avec tout ce qui est l'appui psychosocial également pour les enfants qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des déplacements et autres qui sont affectés par la situation au pays. On sait que la crise d'éducation a un impact disproportionné sur les filles. Les jeunes filles sont 2,5 fois plus à risque d'être retirées de l'école pendant des différentes crises d'enseignement, d'accès, d'insécurité alimentaire que les garçons. Pour nous, en tant que humanitaires, c'est essentiel d'intervenir et d'accroître vraiment urgemment l'accès à l'éducation dans les zones de déplacement, dans les zones qui sont reculées et actuellement avec peu d'accès, en accélérant le redéploiement des enseignants et des enseignantes, là où ils sont les plus nécessaires. Bien sûr, en ouvrant aussi les nouvelles salles de classe partout où c'est possible et en généralisant les doubles vacations dans les écoles opérationnelles pour permettre le maximum des élèves de continuer la scolarisation.
La représentante de plan international au Burkina Faso, Annika Kersti.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Dans la région d'Arlit, au Niger, des tas de déchets partiellement radioactifs issus de 4 décennies d'exploitation de l'uranium parsèment le paysage. Un plan décennal est en cours pour sécuriser les déchets et éviter les risques pour la santé et l'environnement. Mais il suscite des inquiétudes. Jean-Roger Bion.
Le plus grand chantier est de sécuriser les montagnes de quelques 20 millions de tonnes de déchets de roches et résidus de minerais qui ont été en contact avec l'uranium. Elles s'étendent sur 120 hectares et atteignent par endroits 35 mètres de haut. Leur présence fait craindre de graves conséquences sur la santé des anciens salariés et le reste de la population locale. Hassan Soulé est un ancien employé de Cominac.
Aujourd'hui, les gens ils sont à 7 km de carrière. C'est ça aussi. C'est ça qu'il faut voir. Tout le monde est inquiet. Hein. Les gens sont malades. Hein. Quelqu'un qui fait 40 ans en train de tourner une chaîne uranifère, alors comment on va dire que les gens ne vont pas être tombés malades? C'est normal.
À l'inverse, la Cominac et le groupe Orano se veulent rassurants. Selon Orano, le taux maximum de radioactivité sur l'homme relevé sur le site de la mine était en deçà du seuil réglementaire pour les mineurs au Niger. Hélène Sirora Djibo, responsable du redéveloppement de Cominac.
On va être sur des doses naturelles qui sont inférieures aussi à ce qu'on peut trouver dans d'autres régions en France ou ailleurs dans le monde. Donc on est vraiment ici sur de l'exploitation d'uranium naturel. On n'a pas de radioactivité artificielle qui va être créée par l'homme. On n'est pas sur de l'uranium enrichi, on est sur de l'uranium naturel ici.
Orano a promis d'investir 150 millions d'euros pour assainir l'environnement. La compagnie a promis que les collines seront reprofilées et recouvertes de 2 mètres de matériaux garantis imperméables à l'issue des travaux et que ces derniers sont assortis de mesures de contrôle dans la ville d'Arlit et ses environs où vivent quelques 200 000 personnes. Mahaman Sani Abdoulaye, directeur général de Cominac.
Aujourd'hui, près de 90%, mais exactement 87% de nos anciens salariés aujourd'hui disposent d'une solution actée. Ce que nous appelons une solution actée, par exemple, des personnes qui se sont lancées dans l'auto-entrepreneuriat, on a à peu près plus de 150 personnes. Des personnes qui, par les propres efforts de l'entreprise, ont pu être placées dans d'autres structures, que ce soit à Cominac, enfin, dans le groupe Orano, Sumeil, on a à peu près 140.
Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais c'est aussi l'une des plus grandes sources d'uranium de la planète. La Cominac entend restituer à la fin des travaux de réaménagement un site sûr, sain et non polluant, dans le respect des normes nationales et des recommandations internationales, du moins si l'on en croit sa direction.
Au-delà des matchs de la conférence Sahara qui se déroule actuellement à Dakar, la BAL, Basketball Africa League, multiplie les activités autour du sport, de l'économie et de l'investissement social des acteurs sportifs. Une initiative dans laquelle la Ligue peut compter sur les joueurs actuels de la BAL, d'anciens joueurs de la NBA et sur la NBA Africa. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Développer des opportunités pour les jeunes, développer un écosystème, une économie et une industrie du sport qui puisse bénéficier au continent africain, tels sont les objectifs visés par la Basketball Africa League en compagnie d'anciens joueurs de la NBA. Un investissement important, d'après Yann Mahimi, ancien joueur NBA.
Pour que cette ligue ait lieu, il faut des infrastructures. On a besoin aussi en Afrique d'avoir des terrains, des salles qui soient belles, qui puissent accueillir des événements internationaux comme la BAL, où le meilleur du basket se joue. On a les 12 meilleurs clubs du continent, où on a associé à côté de ça tout un aspect social, où peu importe où on va, on essaye d'inspirer la jeunesse, que ce soit fille ou garçon, à travers des actions sociales, et aussi à travers la professionnalisation du sport. On essaye d'amener nos jeunes talents dans une ligue et de les exposer au plus haut niveau du basket africain.
Pour montrer des exemples inspirants, la Basketball Africa League a mis en place le prix Ubuntu, doté de 5 000 $ pour récompenser un joueur qui a participé à la balle et qui représente le mieux la ligue par ses efforts envers sa communauté. Pour l'année 2022, le joueur rwandais du REG, Jean-Jacques Wilson, a été primé.
C'est un très grand accomplissement pour moi et la communauté avec laquelle je travaille.
Œuvrer dans le social et mettre en place des mécanismes pour le développement du sport, telle est la volonté affichée par d'anciens joueurs NBA pour aider la balle, la NBA Afrique, pour un basketball plus inclusif sur le continent. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.